Chapitre 22. Un peu avant 6 heures, M. de Mussidan rentra et, en apercevant Faré, il montra plutôt de la satisfaction que du mécontentement. « Bonjour, mon jeune ami, » dit-il en lui tendant la main. « Comment va la location ?»«
Très bien. »«
Enchanté. Je vous l'ai dit, jeune ami. Grand succès. » Mais ce n'était pas pour entendre parler du succès de ses pièces que Faré avait attendu M. de Mussidan. Il tira de sa poche la dépêche de Geneviève.
« Voici une dépêche que je viens de recevoir, » dit-il.
« De qui cette dépêche ?»«
De mademoiselle Geneviève. »
M. de Mussidan, qui s'était assis dans le seul fauteuil qui resta à peu près solide sur ses 4 pieds et qu'on réservait à son usage exclusif, se leva d'un bond.
« Comment, s'écria-t-il, vous êtes en correspondance avec ma fille ?»
Et se tournant vers sa femme avec indignation,
« Vous saviez cela, vous, madame ?»«
Il s'agit d'une dépêche, » dit-elle timidement.
« Quelle est cette distinction casuistique ? Une dépêche, une lettre, qu'importe ? Et vous le tolériez, vous l'encouragiez peut-être, madame ?»
Madame de Mussidan ne répondit pas, ce qui était sa manière la plus ordinaire de répondre. Faré voulut venir à son secours.
« Si vous vouliez prendre connaissance de cette dépêche, dit-il, vous verriez qu'il a fallu des circonstances impérieuses pour qu'elle me soit envoyée. »«
Il n'y a pas de circonstances impérieuses contre l'honneur. » Quand M. de Mussidan avait trouvé une maxime de ce genre, il se calmait aussitôt, comme si sa responsabilité était du même coup dégagée.
« Voyons cette dépêche, dit-il au bout d'un certain temps. »
Il la lut. Puis, en silence, il regarda sa femme et Faré comme deux complices qu'il voulait accabler.
« Alors, s'écria-t-il, c'est pour me conduire chez un notaire où je donnerai mon consentement à votre mariage que vous venez me chercher ?»«
Mais... » Monsieur de Mussidan lui coupa la parole.
« Eh bien, je vous répète ce que je vous ai déjà dit, vous êtes jeune, plus que jeune. » « Vous me prenez donc pour une girouette de vous imaginer que j'ai changé depuis notre dernier entretien ?»«
Ce sont les circonstances qui ont changé. »«
Je n'aime pas qu'on parle toujours des circonstances. Mais enfin, puisque ce mot vous plaît, je vous répondrai que si elles ont changé pour vous, elles ont changé pour moi aussi. Quand vous m'avez demandé la main de ma fille, vous vous êtes adressé à moi naïvement, sous l'influence d'un sentiment sincère, sans réflexion. » Et je vous ai répondu, malgré ma surprise, en égard à cela. Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus de naïveté ni de sincérité. Cette dépêche est un outrage voulu, prémédité.
« Elle est de Geneviève !» s'écria Faré, interrompant malgré lui.
« Elle est écrite par Geneviève, c'est possible, mais elle est dictée par cette vieille coquine, sa tante, mademoiselle de Puylaurens. J'en suis sûr, comme si je l'avais vue, comme si je l'avais entendu. Et c'est là ce qui constitue l'outrage. Vous savez ou vous ne savez pas que cette vieille folle est mourante, et dans sa méchanceté diabolique, elle voudrait soustraire ma fille à mon autorité paternelle en la mariant. Comprenez-vous mon indignation ?»
Ce que Faré comprenait, c'est que M. de Mussidan, ne voulant pas lui donner les raisons vraies qui le faisaient refuser son consentement, lui jouait une scène de dignité et, comme on dit dans un certain monde, la lui faisait à l'autorité paternelle. Mais cela, justement, rendait sa situation plus difficile encore, puisqu'il ne pouvait pas laisser voir qu'il n'était pas dupe de ce noble langage auquel il devait répondre sérieusement.
« Je ne comprends qu'une chose, dit-il, c'est que mademoiselle de Puylaurens, dans sa tendresse pour mademoiselle Geneviève, s'est laissée toucher, et que, malgré sa fierté nobiliaire, malgré l'ambition que sa fortune pouvait justement lui inspirer, elle a consenti à m'accepter, moi qu'elle ne connaît pas.
Et c'est justement cela qui prouve que ce consentement qu'elle donne in extremis est dirigé contre moi. Si elle vous connaissait, je comprendrais jusqu'à un certain point qu'elle eût été entraînée.
Elle l'a été par son affection pour sa nièce.
Elle l'a été par sa haine pour son neveu. Je sais ce que je dis, moi qui la connais depuis 50 ans. Elle a voulu me déshonorer, m'abaisser, et je serais un lâche,
je ne serais pas un père digne de ce titre si je m'inclinais devant une pareille volonté. Vous n'aurez pas plus mon consentement aujourd'hui que vous ne l'avez eu l'autre jour. Et même, vous l'aurez moins, car pour que je vous refuse, il y a aujourd'hui des raisons qui n'existaient pas l'autre jour. Mais l'autre jour, j'étais seule. Aujourd'hui, votre fille se joint à moi. La repousserez-vous comme vous m'avez repoussée ?
Ils s'aiment, interrompit Madame de Mussidan.
Taisez-vous, madame, c'est au chef de la famille de parler. Ce n'est ni elle ni vous que je repousse aujourd'hui, c'est mademoiselle depuis Laurence.
Faré devait employer tous les moyens et ne négliger aucun de ceux qu'il pouvait porter. Insensible à l'affection et à la tendresse paternelle, ce père ne se laisserait-il pas toucher par l'intérêt ?
Peut-être, dit-il, mademoiselle de Puylaurens, déçue dans son idée de mariage, changera-t-elle ses dispositions ? Cela n'est-il pas possible si elle est la femme que vous dites ?
Croyez-vous donc que moi, je sois homme à céder à des raisons d'intérêt ? Ce serait alors que je mériterais le mépris dont elle veut me charger.
Que dire ? Cependant, Faré allait continuer. Mais sur un signe de Madame de Mussidan, il se tut, comprenant qu'elle voulait intervenir dans ce débat et qu'elle ne pouvait pas le faire devant lui.
« Allez-vous-en, semblait-elle dire. Maintenant, laissez-moi agir. »
Elle était trop prudente, trop dévouée pour qu'il n'eût pas confiance en elle. Il se leva. Monsieur de Mussidan lui tendit la main.
« Au revoir, dit-il. »
Dans la rue, Faré se demanda s'il devait répondre tout de suite à Geneviève ou attendre le lendemain pour lui dire en même temps ce que Madame de Mussidan avait obtenu. Mais, après réflexion, il lui sembla que, si Mademoiselle de Puylaurens était dans l'état désespéré que disait Monsieur de Mussidan, les avantages qu'il y avait à ne pas attendre le lendemain l'emportaient sur les inconvénients, et il entra dans un bureau où il déposa cette dépêche.
« Votre père vient de me refuser. Votre mère fait une nouvelle tentative. Attendons à demain. »
Après le départ de Faré, Madame de Mussidan était restée silencieuse et son mari, qui craignait quelques prières de sa part, avait été satisfait de son attitude.
« Elle n'ose pas, s'était-il dit. »
Cependant, s'il l'avait examinée, il aurait remarqué qu'elle était dans un état de trouble extraordinaire, pâle, tremblante à ce point qu'elle s'y prenait à plusieurs fois pour piquer son aiguille.
« Je suis bien aise que Faré soit parti, » dit-elle enfin d'une voix rauque.
« Moi aussi, car il m'ennuyait à la fin. »
Ces instances, cependant, étaient bien naturelles, car il aime passionnément Geneviève et elle lui rend son amour. « Vous n'avez pas réfléchi, je pense, à ce qu'ils vont souffrir.
Que voulez-vous que j'y fasse ?
Que vous leur épargniez ces souffrances en leur donnant votre consentement.
Alors, vous aussi, vous trouvez que je dois m'humilier devant mademoiselle de Puylaurens ?
Ce n'est pas sérieusement que vous me dites cela ?
Parce que... Elle hésita un moment et pâlit plus encore.
Parce que vous savez bien que je ne crois pas aux raisons que vous avez données à Faré pour justifier votre refus.
Vous n'y croyez pas, vous ?
Il la regarda de son air terrible. Mais elle ne baissa pas les yeux et ne courba pas le dos comme elle en avait l'habitude devant ses colères. Ne voulant pas paraître démontée, bien qu'il le fût jusqu'à un certain point, « Alors, que vous permettez-vous de croire ? » demanda-t-il d'un ton de défi.
« Je crois que, comptant sur la mort prochaine de mademoiselle de Puylaurens, vous voulez jouir de la fortune qu'elle laissera sans doute à Geneviève. »
Du coup, M. de Mussidan fut interloqué, mais il se remit assez vite.
« Eh bien, quand cela serait ? N'est-ce pas la loi qui me donne la jouissance de cette fortune ? En réalité, n'est-elle pas la mienne, cette fortune, et dois-je la donner à M. Faré ?
Il ne la demande pas.
Non, mais il apprendrait volontiers. Comment êtes-vous si réservé pour admettre une pensée d'intérêt chez les autres, et si peu pour la soupçonner chez votre mari ?
Parce que je n'ai en vue que le bonheur de ma fille.
Il faudrait aussi avoir en vue l'honneur de votre mari, que vous oubliez. Je parle en mère en ce moment, non en femme.
Beaucoup trop en mère, pas assez en femme.
À qui la faute? N'est-ce pas mon devoir de défendre cet enfant que je vois sacrifié à l'argent?
Qui vous donne l'audace de me parler ainsi?
Mon amour pour ma fille, que rien ne fera taire et qui vous parlera ainsi, tant que vous n'aurez pas senti toute la cruauté, toute l'injustice de votre refus, et qui, si vous ne le sentez pas, ne reculera devant rien.
Que voulez-vous dire avec vos sottes menaces?
Croyez-vous que, si mademoiselle de Puylaurens savait que vous refusez votre consentement parce que vous croyez qu'elle doit mourir dans quelques jours, elle ne trouverait pas moyen d'assurer sa fortune à Geneviève sans que vous puissiez en toucher jamais un sou?
Je l'en défie.
Si cela n'est pas possible, croyez-vous qu'elle hésiterait dans ce cas à déshériter Geneviève?
Est-ce donc vous qui feriez déshériter votre fille?
Que m'importe qu'elle soit pauvre, pourvu qu'elle soit heureuse.
Vous êtes folle.